Chapitre 15. Didi regagna son appartement du North End à 2h30 du matin. Elle s'effondra sur son lit tout habillée et programma le réveil pour dormir 4h. Elle se réveilla 6h plus tard, jeta un œil au réveil et paniqua aussitôt. 8h30. Jamais elle n'avait de panne d'oreiller, jamais. Elle bondit hors de son lit, regarda autour d'elle avec des yeux effarés, attrapa son portable et composa un numéro. Bobby répondit à la deuxième sonnerie et elle lâcha sans respirer. « J'arrive, j'arrive, j'arrive. Donne-moi 40 minutes. »«
D'accord. »«
J'ai dû me planter avec mon réveil. Juste une douche, m'habiller, petit déjeuner, je suis partie. »«
D'accord. »«
Merde, les bouchons !»
Didi,
répondit Bobby plus fermement. « Ce n'est pas grave. »«
Il est 8h30 !»
cria-t-elle avant de s'apercevoir à sa grande horreur qu'elle était au bord des larmes. Elle se laissa tomber sur le bord du lit.
« Seigneur, mais dans quel état elle se mettait? Qu'est-ce qui lui arrivait ?»«
Je suis encore chez moi, » expliqua Bobby. « Annabelle dort, je donne son biberon au bébé. Je vais te dire. Je vais appeler le responsable de l'enquête sur la mort de Thomas O. Avec un peu de chance, on pourra se retrouver au Framingham d'ici 1 heure. Qu'est-ce que tu en dis ?»
Didi, docile.
« D'accord. Je te rappelle dans 30 minutes. Bonne douche. » Didi aurait dû dire quelque chose. Autrefois, elle n'aurait pas manqué de le faire. Au lieu de ça, elle raccrocha et restait assise là comme un ballon de baudruche brusquement dégonflé. 1 minute passa, et elle se traîna jusqu'à l'élégante salle de bain où elle retira ses vêtements de la veille et, debout, au milieu des carreaux de céramique blanche, observa son corps nu dans le miroir. Elle toucha son ventre, passa ses mains sur sa peau lisse, essaya de détecter un indice de ce qui était en train de se passer. 5 semaines de retard, et elle ne voyait pas poindre le moindre petit bidon. Au contraire, son ventre semblait plus plat, son corps plus mince. Ça arrive, cela dit, quand on arrête le régime buffet à volonté pour le régime bouillon et biscuit sec. Elle passa à l'examen de son visage où ses boucles blondes et bourriffées encadraient des jouets massiers et des yeux meurtris. Elle n'avait pas encore fait le test de grossesse. Entre l'absence de règles et la fatigue intense entrecoupée d'incessantes nausées, elle n'avait guère de doute sur son état. C'était bien sa chance d'interrompre 3 années de désert sexuel pour se faire mettre en cloque. Peut-être qu'elle n'était pas enceinte, se dit-elle alors. Peut-être qu'elle était mourante en fait.
« Ne rêve pas !» marmonna-t-elle avec morosité.
Mais cette phrase l'arrêta net. Elle ne pensait pas à ce qu'elle disait. Ce n'était pas possible. Elle palpa de nouveau son ventre. Peut-être que sa taille s'était épaissie. Peut-être que juste là, elle sentait un début de renflement. Ses doigts s'attardèrent, caressèrent délicatement la zone. Et l'image d'un nouveau-né lui apparut fugitivement, visage rouge bouffi, yeux sombres bridés, bouche en cerise. Garçon? Fille? Peu importait. Juste un bébé. Un bébé, tout simplement. « Je ne te ferai pas de mal, » murmura-t-elle dans le silence de la salle de bain. « Je ne suis pas faite pour être maman. Je vais être nulle, mais je ne te ferai pas de mal. Jamais volontairement. » Elle s'interrompit, poussa un grand soupir, sentit son déni commencer à se muer insensiblement en acceptation. Mais il va falloir m'aider sur ce coup-là, d'accord? Tu n'as pas tiré le bon numéro, question maman. Alors, on va devoir faire des compromis, tous les deux. Par exemple, tu pourrais me laisser remanger et en échange, j'essaierai de me coucher avant minuit. C'est le mieux que je puisse faire. Si tu veux une meilleure offre, il faudra que tu retournes tenter ta chance à la loterie de la naissance. Ta maman essaie de retrouver une petite fille. Peut-être que tu t'en fiches, mais moi non. Je ne peux pas m'en empêcher, j'ai ce boulot dans la peau. Nouveau silence. Elle poussa encore un grand soupir, toujours en caressant son ventre du bout des doigts. Alors il faut que je fasse ce que j'ai à faire, murmura-t-elle. Parce que le monde est un vrai merdier et qu'il faut bien y mettre de l'ordre, sinon les petites filles comme Sophie Léonie n'auront jamais la moindre chance. Je ne veux pas vivre dans ce monde-là, et je ne veux pas que tu grandisses dans ce monde-là, alors on va faire ça ensemble. Je vais prendre une douche, et ensuite je vais manger. Ça te dirait des céréales ?
Son estomac ne s'aigrit pas immédiatement, et elle prit ça pour un oui.
Va pour des céréales, et ensuite on retourne bosser. Plus tôt on retrouvera Sophie, plus tôt je pourrai t'emmener à la maison voir ton papa.
qui, au moins à une époque, voulait des enfants. J'espère que c'est toujours le cas. Et merde, il va falloir qu'on y croie tous un peu dans cette affaire. Allez, au boulot.
Didi ouvrit le robinet de la douche. Plus tard, elle mangea des Cheerios et quitta son appartement sans avoir vomi.
« Pas mal, » estima-t-elle. « Pas mal. »
L'enquêteur Butch Walters portait bien son nom. Visage épais, épaules massives, bedaine d'ancien joueur de football américain qui s'était laissé aller. Il avait accepté de retrouver Bobby et Didi dans un café qui servait des petits déjeuners au coin de sa rue. C'était son jour de repos, et tant qu'à parler boulot, il voulait au moins y gagner un repas. Didi entra, fut assaillie par une forte odeur d'œufs et de bacon, et faillit ressortir. Elle avait toujours adoré les restaurants. Elle avait toujours adoré les œufs au bacon. En être maintenant réduite à ces nausées instantanées était purement et simplement cruel. Elle inhala plusieurs fois par la bouche pour calmer ses hauts le cœur, puis eut une inspiration et sortit les chewing-gums de son sac bandoulière. Un vieux truc appris en travaillant sur d'innombrables scènes de crime. Mâcher du chewing-gum à la menthe neutralise le sens de l'odorat. Elle enfourra 3 tablettes dans sa bouche, sentit le puissant goût de menthe envahir le fond de sa gorge et réussit à rejoindre le fond du restaurant où Bobby était déjà assis face à Walters sur une banquette. Les deux hommes se levèrent à son arrivée. Elle se présenta à Walters, salua Bobby et se glissa la première sur la banquette pour être à côté de la fenêtre. Coup de chance, celle-ci avait l'air de pouvoir s'ouvrir. Didi entreprit immédiatement d'actionner les loquets.
« Un peu chaud, » expliqua-t-elle. « J'espère que ça ne vous dérange pas. »
Les deux hommes la regardèrent d'un œil curieux, mais ne dirent rien. « C'était vrai qu'il faisait chaud dans ce restaurant, » pensa Didi sur la défensive, et le souffle d'air froid du mois de mars sentait la neige et rien d'autre. Elle se pencha vers la fente étroite.
« Un café ?»
proposa Bobby.
« De l'eau. »
Bobby s'étonna.
« J'ai déjà pris un kawa, » mentit Didi. « Je n'ai pas envie d'avoir la tremblote. »
Bobby n'était pas dupe. Elle aurait dû s'en douter. Elle se tourna vers Walters avant que Bobby ait le temps de proposer un petit déjeuner. L'avoir refusé un repas signerait sans doute la fin du monde tel qu'il le connaissait.
« Merci d'avoir accepté de nous rencontrer, » dit-elle, « surtout pendant votre jour de congé. »
Walters hocha la tête d'un air obligeant. Son nez bulbeux était sillonné de capillaires rouges éclatés. « Gros buveur, » en déduisit Didi. Un de ces anciens combattants qui touchaient à la fin de leur carrière. S'il croyait qu'il avait la vie dure maintenant, songea-t-elle avec une pointe de compassion, qu'il attende de voir ce que serait la retraite. Toutes ces heures vides à remplir avec le souvenir du bon vieux temps et le regret des arrestations manquées.
« Surpris qu'on m'appelle pour le dossier O, » dit Walters. « J'ai enquêté sur un paquet d'affaires à l'époque. Jamais trouvé cette enquête intéressante. »
Les faits semblaient assez clairs ?
Oui et non. Les preuves matérielles, c'était du grand n'importe quoi. Mais les antécédents de Tommy Howe étaient parlants. Tessa Léonie n'était pas la première qui l'agressait, seulement la première qui résistait.
Ah bon ?
Didi était intrigué. La serveuse arriva et les interrogea du regard. Walters commanda un menu du pionnier, soit 4 saucisses, 2 œufs frits et une petite assiette de frites maison. Bobby commanda la même chose. Didi, dans un moment de bravoure, opta pour un jus d'orange. Ce coup-ci, pas de doute, Bobby la regardait avec de grands yeux.
« Si vous pouviez nous retracer l'affaire, » dit Didi à Walters dès que la serveuse se fut éloignée.
« L'appel est arrivé au 911, la mère, dans mon souvenir, en pleine crise de nerfs. Le premier intervenant a trouvé Tommy Howe mort dans le séjour, une plaie par balle, ses parents et sa sœur en peignoir autour de lui. La mère sanglotait, le père la consolait, la petite sœur était en état de choc. Les parents ne savaient rien de rien. Ils s'étaient réveillés en entendant du bruit, le père était descendu, avait trouvé le corps de Tommy, point final. C'était la sœur, Juliana, qui avait les réponses. Mais il a fallu un moment pour les obtenir. Elle avait invité une amie à dormir.
« Tessa Léonie ?» précisa Didi.
« Exact. Tessa s'était endormie sur le canapé pendant qu'elle regardait un film. Juliana était montée se coucher. Peu après 1 heure du matin, elle aussi avait entendu du bruit. Elle était descendue et avait découvert son frère et Tessa sur le canapé. Selon ses propres dires, elle ne savait pas très bien ce qui se passait, mais ensuite, elle avait entendu un coup de feu et vu Tommy reculer en chancelant. Il était tombé par terre, et Tessa s'était relevée du canapé, le pistolet toujours à la main.
Juliana a vu Tessa tirer sur son frère ?
Ouais. Elle était plutôt chamboulée. D'après elle, Tessa lui a dit que Tommy l'avait agressée. Juliana était désemparée. Tommy mettait du sang partout, elle entendait son père dans les escaliers, elle a paniqué et dit à Tessa de rentrer chez elle. Ce que Tessa a fait.
Tessa est rentrée chez elle en courant en pleine nuit, intervint Bobby.
Elle habitait la même rue, à 5 maisons de là. Pas une grosse distance à parcourir. Quand le papa est arrivé en bas, il a hurlé à Juliana que sa mère appelle le 911. Voilà la scène que j'ai découverte. Plein de sang dans le salon, un adolescent mort, une tireuse absente.
Où Tommy avait-il pris la balle ?
En haut de la cuisse gauche. Elle a sectionné l'artère fémorale et il s'est vidé de son sang. Pas de chance, quand on y pense. Mourir d'une balle dans la jambe.
Une seule balle ?
Ça suffit.
Intéressant, songea Didi. Au moins, Brian Darby en avait pris 3 dans la poitrine. C'est fou ce qu'on pouvait apprendre en 25 semaines de formation intensive au tir au pistolet. Et où était ça ?
Après la déposition de Juliana, je suis allée chez les Léonie, où Tessa m'a ouvert dès que j'ai frappé. Elle avait pris une douche.
C'est pas vrai.
Je vous ai dit que c'était n'importe quoi, les preuves matérielles. Cela dit,
ajouta Walters en haussant ses solides épaules,
elle avait 16 ans. De son propre aveu, elle avait subi des violences sexuelles avant de tirer sur son agresseur. Comment lui en vouloir de s'être précipitée sous la douche ?
Ça ne plaisait quand même pas à Didi. Quelles preuves matérielles avez-vous pu recueillir ?
Le 22. Tessa l'a donné tout de suite. Il y avait ses empreintes sur la crosse, et la balistique a prouvé que la balle qui a tué Tomio venait de ce pistolet. Nous avons ensaché et étiqueté les vêtements qu'elle avait enlevés. Pas de sperme sur les sous-vêtements. D'après elle, il n'avait pas pu terminer ce qu'il avait commencé. Mais du sang sur ses vêtements. Même groupe que celui de Tomio.
De la poudre sur ses mains ?
Test négatif. En même temps, elle avait pris une douche.
Le kit de recueil de preuves en cas de viol ?
Elle a refusé.
Refusé ?
Elle disait qu'elle en avait assez subi comme ça. J'ai essayé de la convaincre de laisser une infirmière l'examiner pour voir si elle avait des ecchymoses. Je lui ai expliqué que ce serait dans son intérêt. Mais elle n'a rien voulu savoir. Elle tremblait comme une feuille. On voyait qu'elle était à bout de nerfs.
Et le père dans tout ça ? Demanda Bobby.
Il s'est réveillé quand nous sommes arrivés chez lui. Apparemment, il s'apercevait seulement que sa fille était rentrée de sa nuit chez sa copine et qu'il s'était passé quelque chose. Il avait l'air un peu à côté de ses pompes. Dans sa cuisine, en caleçon et Marcel, les bras croisés sur la poitrine, sans décrocher un mot. Je veux dire, sa fille de 16 ans raconte qu'elle s'est fait agresser par un garçon et lui, il reste planté là comme une statue.
Donnie, dit Walters en claquant des doigts lorsque le nom lui revint.
Donnie Léonie, il dirigeait un garage. Je n'ai jamais pu comprendre ce type. Sans doute l'alcool, je me disais. Mais je n'ai jamais eu confirmation.
La mère ?
Morte. 6 mois plus tôt, crise cardiaque. Pas une famille heureuse, mais bon,
conclut Walters avec résignation.
C'est presque toujours comme ça.
Donc, récapitula Didi, Tommy O meurt dans son salon d'une blessure par balle. Tessa avoue, mais elle s'est lavée et refuse de se soumettre à un examen médical. Je ne comprends pas. Le procureur s'est contenté de la croire sur parole ? La pauvre petite jeune fille traumatisée disait forcément la vérité ?
Walters se secoua la tête.
Entre nous ?
Bien sûr, l'encouragea Didi. Entre amis.
Tessa Léonie était une énigme pour moi. Je veux dire, d'un côté. Elle était là, dans sa cuisine, à trembler, sans pouvoir s'arrêter. Et de l'autre, elle rendait compte de chaque minute de la soirée avec précision. De toute ma carrière, je n'ai jamais vu une victime se souvenir aussi clairement d'autant de détails, surtout après une agression sexuelle. Ça m'ennuyait. Mais qu'est-ce que je pouvais dire ? Chérie, tu as trop bonne mémoire pour que je te prenne au sérieux. Par les temps qui courent, un enquêteur risque sa plaque avec ce genre de phrases, et croyez-moi, j'ai deux ex-femmes à entretenir, je vais avoir besoin de ma retraite.
Alors pourquoi la laisser s'en tirer avec de la légitime défense ? Pourquoi ne pas l'inculper ? Demanda Bobby, manifestement aussi perplexe que Didi.
Parce que Tessa Léonie faisait peut-être une victime contestable, mais Tomio était le coupable idéal. En moins de 24 heures, trois filles ont appelé pour signaler qu'il les avait agressées sexuellement. Aucune d'elles ne voulait faire une déposition officielle, notez bien. Mais plus on creusait, plus on s'apercevait que Tommy s'était clairement fait une réputation auprès des demoiselles. Il ne comprenait pas le mot « non ». Il n'employait pas nécessairement la force, ce qui explique pourquoi beaucoup hésitaient à témoigner. Il semblerait qu'il les faisait boire, quitte à corser leur boisson. Mais certaines des filles se souvenaient parfaitement qu'elles n'étaient pas intéressées par Tomio et qu'elles s'étaient quand même réveillées dans son lit.
« Rohypnol, » suggéra Didi.
« Sans doute. Nous n'en avons pas trouvé dans sa chambre d'étudiant, mais même ses copains reconnaissaient qu'il parvenait toujours à ses fins et que l'opinion de la fille sur la question ne l'intéressait pas beaucoup.
« Charmant garçon, » grommela Bobby.
« Ses parents le pensaient, en tout cas, » observa Walters. « Quand le procureur a annoncé qu'il n'engageait pas de poursuite et qu'il a voulu expliquer les circonstances atténuantes, on aurait dit qu'on essayait de leur prouver que la terre n'était pas ronde. Le père, James Ho, a piqué une crise. Il a hurlé sur le procureur, appelé mon supérieur pour lui expliquer en long, en large et en travers qu'à cause de mon enquête de merde, nous allions laisser une tueuse de sang-froid se promener en liberté. Monsieur avait des relations. Il nous ferait tous sauter.
Il l'a fait ? Demanda Didi avec curiosité.
Walters leva les yeux au ciel.
« Voyons, il était cadre moyen chez Polaroid. Des relations. Il gagnait correctement sa vie et je suis sûr que ses sous-fifres tremblaient devant lui. Mais il ne régnait que sur un box de 9 mètres carrés et une maison de 200 mètres carrés. Les parents, »
soupira-t-il. Monsieur et Madame O n'ont jamais cru que Tommy avait agressé Tessa Léonie ?
Non. Ils n'ont jamais pu envisager que leur fils soit coupable, ce qui est drôle, parce que Denis Léonie n'a jamais pu envisager que sa fille soit innocente. J'ai appris par le bouche à oreille qu'il l'avait jetée dehors. Un de ces types qui pensent que la fille a dû le chercher, manifestement. Que voulez-vous ?
Conclut-il en secouant de nouveau la tête. La serveuse revint avec leur commande, fit glisser les assiettes devant Walters et Bobby et tendit son verre de jus d'orange à Didi. « Autre chose ? » demanda-t-elle. Comme il faisait signe que non, elle s'éloigna. Les hommes attaquèrent leur repas, Didi se pencha vers la fenêtre entr'ouverte pour échapper à l'odeur grasse des saucisses. Elle retira son chewing-gum de sa bouche, fit une tentative avec le jus d'orange. Comme ça, Tessa Léonie avait tiré une balle dans la jambe de Tomio. Quand Didi visualisait la scène, l'enchaînement paraissait logique. Tessa, 16 ans, terrifiée, coincée dans les coussins du canapé sous le poids d'un homme plus grand, plus fort, sa main droite, qui tâtait à côté d'elle, sentait son sac à main qui lui rentrait dans la hanche, cherchait le 22 de son père, empoignait enfin la crosse, glissait l'arme entre eux. Walters avait raison. Fichue malchance pour Tommy d'être mort d'une telle blessure. Tout bien considéré, fichue malchance aussi pour Tessa, qui avait perdu son père et sa meilleure amie dans la bataille. Ça ressemblait à de la légitime défense, vu le nombre d'autres femmes qui étaient prêtes à confirmer le passé d'agresseur sexuel de Tommy. Et cependant, qu'une même femme soit impliquée dans 2 morts par arme à feu, d'abord celle d'un adolescent agressif, ensuite celle d'un mari violent,
Pour le premier, une seule balle dans la jambe qui s'était révélée fatale. Pour le second, 3 balles dans la poitrine, en plein dans la zone mortelle. 2 morts par arme à feu. 2 cas de légitime défense. Malchance ? Se demanda Didier en prenant une deuxième petite gorgée de jus d'orange, ou processus d'apprentissage. Walters et Bobby terminaient leurs assiettes. Bobby prit l'addition. Walters grommela des remerciements. Ils échangèrent leurs cartes et Walters partit de son côté, laissant Bobby et Didier sur le trottoir. Bobby se retourna vers elle à la seconde où Walters tourna au coin de la rue.
« Quelque chose que tu voudrais me dire, Didier ?»«
Non. »
Il serra les dents comme s'il allait insister, mais non. Il se détourna et se mit à étudier la marquise du restaurant. Pour un peu, Didier l'aurait cru froissée. « J'ai une question pour toi, » dit-elle pour changer de sujet et détendre l'atmosphère. « J'en reviens toujours à Tessa Léoni, contrainte de tuer 2 hommes dans 2 cas de légitime défense. Je me demandais si elle était malchanceuse à ce point ou bien futée à ce point. » La question éveilla l'attention de Bobby. Il se tourna vers Didi, concentré.
« Imagine, » continua Didi, « Tessa est abandonnée à son triste sort à l'âge de 16 ans et elle finit seule et enceinte à 21 ans. Mais là, selon ses propres termes, elle reconstruit sa vie. Elle arrête de boire, donne naissance à une magnifique petite fille, devient une policière respectable, rencontre même un mec génial, jusqu'au jour où, ayant bu, il la frappe pour la première fois. Qu'est-ce qu'elle fait à ce moment-là ?
Entre flics, on ne se confie pas,
remarqua Bobby avec raideur. Exactement. Ce serait contraire au code du patrouilleur, censé affronter n'importe quelle situation tout seul. Cela dit, Tessa aurait pu quitter son mari. La prochaine fois que Brian aurait pris la mer, Tessa et Sophie auraient eu 60 jours devant elle pour s'installer ailleurs. Mais peut-être qu'après avoir vécu dans une jolie petite maison, Tessa n'a pas envie de retourner dans un 2 pièces. Peut-être qu'elle apprécie cette maison, le jardin, la belle voiture, les 50 000 $ à la banque.
Peut-être qu'elle pense qu'il ne suffira pas de déménager, répliqua Bobby. Il y a des maris violents qui ne veulent pas comprendre.
D'accord, lui accorda Didi. Ça aussi. Tessa estime qu'il lui faut une solution plus radicale. Une solution qui fasse définitivement sortir Brian Darby de sa vie et de celle de Sophie, sans pour autant la priver d'un bien immobilier exceptionnel. Alors, qu'est-ce qu'elle fait ?
Bobby la dévisage.
Tu veux me dire qu'en se fondant sur son expérience avec Tommy O, Tessa décide de mettre en scène une agression qui lui permettra de tuer son mari en situation de légitime défense ?
Je me dis que l'idée a dû lui traverser l'esprit.
D'accord. Sauf que les blessures de Tessa ne sont pas du chiquier. Commotion cérébrale, pommettes fracturées, contusions multiples. Elle ne tient même pas debout.
Peut-être que Tessa a provoqué son mari pour qu'il l'agresse. Pas bien difficile. Elle sait qu'il a bu. Suffit de le pousser à lui donner quelques torgnoles et elle peut ouvrir le feu sans danger. Brian cède à ses démons et Tessa en profite.
Bobby, mécontent, secouait la tête.
Trop machiavélique. Et même comme ça, ça ne tient pas la route.
Pourquoi ?
À cause de Sophie. Mettons que Tessa fasse en sorte que son mari la frappe et qu'elle lui tire dessus. Comme tu le disais hier, ça explique le cadavre dans la cuisine et son séjour avec les urgentistes dans le jardin d'hiver.
Mais Sophie ?
Où est Sophie ?
Didi se renfrogna, une main posée sur le ventre.
Peut-être qu'elle voulait que Sophie ne soit pas dans la maison pour éviter qu'elle assiste à la scène.
Dans ce cas, elle se serait arrangée pour que Sophie dorme chez Madame Ennis.
Attends, c'est peut-être ça le problème. Elle ne s'est pas arrangée pour que Sophie dorme chez Madame Ennis. Sophie en a trop vu, alors Tessa a été obligée de l'escamoter pour que nous ne puissions pas l'interroger.
Tessa aurait planqué Sophie.
Didier réfléchit à cette hypothèse. Ça expliquerait pourquoi elle a été aussi lente à coopérer. Elle n'est pas inquiète pour sa fille. Elle sait que Sophie est en sécurité.
Mais Bobby protestait déjà.
Voyons, Tessa est agent de police. Elle sait qu'à l'instant où elle signalera la disparition de son enfant, une alerte enlèvement sera déclenchée dans tout l'État. Quelle chance y a-t-il d'arriver à cacher une enfant dont la photo est diffusée à tous les coins de rue par les grands médias ? À qui pourrait-elle même demander une chose pareille ? « Salut, il est 9 heures, dimanche matin, et je viens de tuer mon mari. Ça te dirait de partir en cavale avec ma fille de 6 ans ?» Nous avons déjà établi que cette femme n'a ni proche-parent ni ami. Elle aurait le choix entre Madame Ennis et Madame Ennis. Or, Madame Ennis n'a pas Sophie. « Sans oublier, continua implacablement Bobby, que les recherches ne s'arrêteront pas. Tôt ou tard, nous retrouverons Sophie. Et alors nous lui demanderons ce qu'elle a vu ce matin-là. Si Sophie a été témoin de la dispute entre Tessa et Brian, retarder l'échéance de quelques jours n'y changera rien. Alors pourquoi prendre un tel risque avec son enfant ?»«
Évidemment, présenté comme ça, » marmonna Didier avec dépit.
« Pourquoi c'est si difficile pour toi ?» demanda brusquement Bobby. « Une collègue est hospitalisée. Sa petite fille a disparu. La plupart des enquêteurs sont heureux de l'aider, mais toi, on dirait que tu cherches à tout prix une raison de l'épingler. Pas du... Est-ce que c'est parce qu'elle est jeune et jolie ? Est-ce que tu es vraiment aussi mesquine ?»«
Bobby Dodge !»
éclata Didi.
« Il faut qu'on retrouve Sophie Léonie !»
cria à son tour Bobby. Pendant toutes les années qu'ils avaient passées ensemble, Didi n'était pas sûre d'avoir jamais entendu Bobby crier. Mais ce n'était pas grave parce qu'elle-même avait élevé la voix.
« Je sais !»«
Ça fait plus de 24 heures. À 3 heures du matin, ma fille a pleuré et je n'ai pas pu m'empêcher de me demander si la petite Sophie n'était pas en train de faire la même chose quelque part.
« Je sais !»«
Cette affaire me rend malade, Didi !»«
Moi aussi !»
Bobby arrêta de crier, reprit son souffle. Didi poussa un soupir de frustration. Bobby passa une main dans ses cheveux courts. Didi repoussa ses boucles blondes en arrière.
« Il faut qu'on parle à l'employeur de Brian Darby, » rappela Bobby au bout d'une minute. « Il nous faut une liste des amis, des relations susceptibles de savoir ce qu'il aurait pu faire de sa belle-fille. »
Didi consulta sa montre. 10 heures. Phil avait programmé le rendez-vous téléphonique avec Scott Hale pour 11 heures.
« Encore 1 heure à attendre. »
« Très bien. Commençons par appeler les salles de sport. Peut-être que Brian avait un coach personnel. Les gens avouent tout à leur coach, et on aurait bien besoin d'une confession là, tout de suite.
« Toi, tu appelles les salles de sport, » dit Didi.
« Pourquoi ? Qu'est-ce que tu vas faire ?» lui demanda-t-il avec méfiance.
« Retrouver Juliana O. Didi.
Diviser pour mieux régner, » l'interrompit-elle sèchement. « Couvrir 2 fois plus de terrain pour des résultats 2 fois plus rapides. »
« Bon sang, jamais tu ne désarmes !»«
C'est ce qui t'avait séduit à une époque ?» Didi partit vers sa voiture. Bobby ne la suivit pas.